VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du mercredi 20 juillet 2016. À la une ce soir.
Attaque de Nampala revendiquée par deux groupes dans le centre du Mali. Nouveau bilan, 17 morts.
2 millions de personnes menacées de graves pénuries alimentaires dans le nord du Nigeria.
L'armée kényane épinglée par Human Rights Watch pour abus dans le nord-est du pays.
États-Unis politique.
Donald J. Trump has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Donald Trump est officiellement investi candidat pour la présidentielle du 8 novembre.
Nous aurons après les dossiers du jour l'économie et les sports en fin d'émission.
Mais d'abord le journal.
Au Mali, l'attaque contre l'armée à Nampala, dans la région de Ségou. Le gouvernement fait état de 17 morts et 35 blessés. Un bilan provisoire qui fait grincer des dents au niveau de la population, alors que l'impatience s'installe pour connaître la fin de l'identification des victimes. On fait le point avec Kassim Traoré depuis Bamako.
Pour la énième fois, les positions des forces de sécurité et de défense du Mali, les FAMA, ont fait l'objet d'une attaque d'assaillants lourdement armés à Nampala, dans la région de Ségou. Cette attaque est doublement revendiquée par une Katiba d'Ansardine et l'Alliance pour la sauvegarde de l'identité PIL. Suite à cette attaque, les FAMA déplorent 17 morts et 35 blessés. Du matériel militaire a également été emporté ou endommagé par les assaillants. Ce bilan fait monter la tension dans la capitale malienne, surtout au niveau des associations des jeunes et les organisations de la société civile, qui ne comprennent pas comment les soldats maliens se font avoir de cette manière. Chez les parents des victimes, c'est toujours l'impatience, car l'identification des corps est toujours en cours. À chaud, le président Ibeka a organisé un conseil de défense, au cours duquel il a donné les orientations. Le gouvernement malien, de son côté, a rassuré la population que des mesures sécuritaires et militaires ont été prises. À Kidal, deux personnes ont perdu la vie au cours d'une dispute née de la vente d'un véhicule. L'un est membre du HCIA, alors que l'autre est du Gatia. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'affaire Guy-André Kiefer s'invite au procès Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le journaliste franco-canadien, porté disparu en 2004 à Abidjan, aurait été exécuté, son corps incinéré, sous les ordres de l'ex-première dame ivoirienne, poursuivie pour crime contre l'humanité. C'est du moins ce qu'a affirmé un ex-chef de milice aujourd'hui devant la justice. Moïse Mekro-Harold Metch, dit commandant Hôtel ou colonel H, chef du groupement des Patriotes pour la paix, indique que citer les propos d'un de ses chefs. Sa milice sévissait sous l'ex-président Laurent Gbagbo de 2000 à 2011. Kiefer a été exécuté par le commandant Anselme Sekayapo sous les ordres de Simone Gbagbo, dont il était le chef de la sécurité rapprochée, a affirmé à la barre l'ex-chef de milice.
Au Nigeria, Médecins sans frontières appelle à une mobilisation massive pour faire face à un désastre humanitaire dans l'état de Borno, touché par les violences des islamistes armés. Nathalie Barge.
La directrice des opérations, Isabelle De Fourny, a dit avoir découvert l'ampleur du désastre lors d'une mission à Bama, à 70 km de Maïdougouri. La zone est coupée du monde depuis presque 2 ans et fait face à une situation d'urgence rarement rencontrée, a-t-elle souligné. MSF avait déjà alerté en juin dernier sur la situation de cette localité où une seconde équipe a été envoyée mardi pour une mission d'une dizaine de jours. Environ 10 000 personnes déplacées sont regroupées dans l'ancien hôpital. Des milliers souffrent de malnutrition sévère et aiguë, ajoutait Jean-Hervé Bradol, coordonnateur d'urgence. Selon MSF, 500 000 personnes déplacées de Maïdougouri, rassemblées dans des camps de la région, ont besoin d'aide alimentaire, soit 300 tonnes de nourriture par jour. Le 1er juillet, l'UNICEF avait prévenu que 250 000 enfants de moins de 5 ans allaient souffrir de malnutrition sévère dans l'état de Borno cette année, dont 50 000 risquaient de mourir si rien n'est fait.
L'ONG Human Rights Watch accuse les forces de sécurité kényanes de se livrer à des enlèvements et exécutions extrajudiciaires dans le nord-est du pays contre des personnes soupçonnées de liens avec les Chebabs somaliens. Claire Morin-Gibourg.
Le rapport de Human Rights Watch a documenté 34 disparitions forcées et 11 exécutions extrajudiciaires ces 2 dernières années dans le cadre d'opérations antiterroristes. Ces exactions, selon l'ONG, ont été menées dans les comtés de Garissa, Mandera et Wajir proche de la Somalie et dont la population est majoritairement d'ethnie somalie. D'après Human Rights Watch, certaines personnes ont été enlevées chez elles par des hommes masqués et armés. D'autres ont été frappées dans les rues avant d'être emmenées dans des véhicules gouvernementaux. Certains qui ont été portés disparus ont été aperçus la dernière fois sous la garde de policiers ou de militaires. Il n'y a jamais eu d'inculpation ni de procédure judiciaire transmise à leurs familles qui ont complètement perdu leurs traces. La police kényane a reconnu que ces accusations étaient très graves. Une enquête a été confiée à un organisme indépendant.
Conflit au Soudan du Sud, l'armée ougandaise a annoncé avoir évacué au total 38 000 civils qui étaient bloqués par des combats à Djouba, la capitale du pays, au terme de son opération débutée vendredi. C'est ce que rapporte l'AFP.
Tunisie, le chef du gouvernement, Habib Essid, sous pression depuis plusieurs semaines, a officiellement demandé un vote de confiance du Parlement sur son cabinet. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant des sources concordantes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moment où des représentants de la coalition internationale contre le groupe État islamique se rencontrent à Washington, l'agence policière européenne, Europol, publie un rapport sur les activités terroristes en Europe. Un rapport inquiétant. Anastasie Tudiech.
Selon Europol, 6 États membres ont fait l'objet de 211 attaques qui ont échoué ou ont réussi et 1077 personnes ont été arrêtées pour terrorisme. Le nombre de victimes a bondi en Europe en 2015 par rapport à 2014. Le rapport anticipe une intensification des activités du groupe État islamique qui perd du terrain en Syrie et en Irak. Si Europol admet ne pas disposer de preuves que des terroristes ont infiltré les réfugiés en Europe, le rapport affirme que les demandeurs d'asile syriens seraient susceptibles de radicalisation. Et Europol de mettre en garde, une nouvelle vague de fanatiques formés d'enfants de combattants pourrait voir le jour. Le groupe État islamique semble favoriser des attaques contre des cibles vulnérables, comme à Nice en France la semaine dernière, quand un homme au volant d'un camion a tué 84 personnes. L'agence policière européenne indique enfin que les extrémistes utilisent de mieux en mieux Internet et les médias sociaux.
Alerte à la bombe en Belgique, la police a fermé aujourd'hui une place publique après avoir encerclé un homme portant un manteau épais et laissant apercevoir des câbles, faisant croire à une veste d'explosifs. Cela s'est passé près de la place de la Monnaie, des bâtiments adjacents ont été évacués, mais la police a finalement conclu que le suspect était un jeune homme qui étudiait les ondes et les radiations dans la capitale belge. Le 22 mars, des attentats suicides à Bruxelles, revendiqués par le groupe État islamique, ont fait 32 morts et plusieurs dizaines de blessés.
En Syrie, les habitants de la ville d'Alep et le principal groupe de l'opposition syrienne ont exprimé leur indignation après la décapitation d'un enfant par des rebelles, dénonçant un acte haineux. Le meurtre brutal filmé et diffusé mardi sur les réseaux sociaux a été perpétré par des rebelles islamistes qui ont accusé le garçon de se battre auprès des troupes du régime syrien de Bachar al-Assad, rapporte l'AFP.
En Grande-Bretagne, Theresa May a tenu sa première session hebdomadaire de questions-réponses à la Chambre des communes, thème dominant bien sûr, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
I'm very clear Brexit does mean Brexit. As he says, we will make a success of it. What we need to do in negotiating...
La nouvelle chef du gouvernement britannique a maintenu sa position sur le Brexit, disant que Londres négocierait le meilleur accord possible avec Bruxelles. Elle s'est entretenue aujourd'hui avec la chancelière allemande Angela Merkel et rencontrera demain le président François Hollande à Paris. Question de préparer les discussions difficiles des prochains mois.
Ce n'est pas un vaccin, encore moins un médicament miracle. Cependant, les experts prenant part à la 21e conférence internationale sur le sida à Durban en Afrique du Sud se montrent optimistes concernant une pilule pouvant peut-être prévenir la propagation du virus VIH. D'après une récente étude dont on a beaucoup parlé pendant cette conférence d'ailleurs, des malades ayant utilisé cette pilule antirétrovirale quotidiennement ont montré des taux de transmission extrêmement faibles. Le programme a donné de bons résultats parmi des sujets centrafricains, sud-africains. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Maintenant, place à notre segment spécial sur la convention du Parti républicain des États-Unis.
Cette troisième journée de la convention à Cleveland, quel est le programme de cette soirée, Nicolas Pinault ?
Oui, bonsoir Morgane.
Bonsoir.
Ah oui, c'est mercredi, un programme intéressant après la nomination de Donald Trump comme candidat. Parti républicain, le parti. Marco Rubio et Ted Cruz, les deux sénateurs, ont été de farouches adversaires de Donald Trump lors de la campagne des primaires. Ils vont intervenir ce soir depuis Cleveland. Alors que vont-ils dire? Vont-ils vraiment appuyer la candidature de Donald Trump ou vont-ils plutôt s'attaquer à Hillary Clinton comme depuis le début de cette convention? On attend de voir. Et surtout, le grand événement de la soirée, c'est le discours de Mike Pence, le colistier de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il deviendrait vice-président si Donald Trump était élu en novembre prochain à la Maison-Blanche. Mike Pence, qui se définit lui-même comme un chrétien, un conservateur et un républicain dans cet ordre, va peut-être devoir donner un peu de substance au message politique du candidat Donald Trump. On suivra tout ça, évidemment, sur VOA Afrique.
Sur le rôle du vice-président, notamment les critères de sélection, Henri Francisca a joint sur place notre envoyé spécial Idrissa Seloudia.
En général, c'est par souci de dosage ou équilibre idéologique ou régional que l'on choisit son colistier pour mieux unifier le parti. Mais Henri, il faut dire que ça aide rarement. Par exemple, en 2004, le libéral John Kerry du Massachusetts avait choisi son rival John Edwards, un sudiste et conservateur. Mais cela ne l'a même pas empêché de perdre même l'état natal d'Edwards, la Caroline du Nord.
Parlons maintenant de l'importance de la vice-présidence. Pendant longtemps, il a été dit que les vice-présidents allaient simplement aux obsèques. En fait, ils ont beaucoup plus d'importance que cela depuis Jimmy Carter, par exemple.
Ça a commencé avec Jimmy Carter, qui avait promis à Walter Mondale d'en faire vraiment son partenaire. Et il faut dire qu'aussi, Walter Mondale avait beaucoup plus d'expérience que Jimmy Carter pour ce qui est de Washington. Il était sénateur du Massachusetts, était aussi l'un des alliés d'un des grands personnages du Parti démocrate, l'ancien vice-président Hubert Humphrey. Donc, il avait besoin de Mondale et sincèrement, ils ont eu un partenariat très fructueux.
Concernant Mike Pence, qu'est-ce qu'il apporte à Donald Trump?
Bon, c'était pour rassurer la base conservatrice du parti, parce qu'il y a beaucoup de conservateurs qui pensent que Donald Trump est plutôt suspect quand il s'agit des programmes traditionnels du Parti républicain, quand il s'agit des programmes sociaux, quand il s'agit des questions sociales, en somme du budget, de l'économie, des impôts, que Donald Trump est suspect dans ce domaine. Alors, donc, il leur fallait un conservateur bon teint, et ce conservateur bon teint, il n'y a pas de doute, Mike Pence l'est.
Idrissa Seloudia, envoyé spécial de VO Afrique à Cleveland.
En politique étrangère, quelle sera la stratégie de Donald Trump vis-à-vis du groupe État islamique? Nicolas Pineau a joint Walid Fares, conseiller du candidat républicain en matière de lutte contre le terrorisme.
Monsieur Trump veut faire autrement. Il veut créer des coalitions, des sortes de fédérations militaires, des coalitions militaires avec les États de la région, les États du Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Jordanie, l'Égypte et d'autres, fassent deux choses. D'abord, participer financièrement et deuxièmement, former une force arabe qui est unie et donc faire des opérations contre l'État islamique. Le plus important que cela, c'est de penser au futur de ces régions libérées par cette coalition ou par les Kurdes ou d'autres milices sur le terrain. Le grand problème qui a créé l'État islamique était le fait que l'Al-Qaïda a été défaite, a été détruite par les forces américaines qui ont été en Irak, et puis on a tout laissé tomber. Le vacuum a été pris par l'État islamique ou par les Iraniens. Le candidat Trump veut négocier la présence de forces qui sont modérées avant de faire cette frappe contre le Yémen.
Et concernant l'engagement des forces américaines, est-ce que le candidat Trump engagerait plus de troupes au sol?
Il n'y aura pas d'invasion américaine maintenant, de grande envergure. Qu'il y ait des conseillers, des forces spéciales, ceux qui encadrent les forces qui sont engagées, oui. Mais ils préfèrent que ce soit des forces alliées, mais donc qui peuvent agencer leur activité avec les États-Unis. Donc ils préfèrent qu'il y ait ou bien des Arabes modérés, ou bien aussi une petite participation des Européens, peut-être un petit entendement avec le Russe sur la question de la Syrie, mais il veut qu'il y ait des forces arabes modérées sunnites dans les zones arabes sunnites. Il ne veut pas qu'il y ait un combat sectaire, un combat de communauté. Il ne veut pas voir des forces chiites qui occupent les zones sunnites ou vice-versa. C'est ça,
voilà,
la différence.
Voilà, c'était Walid Fares, conseiller du candidat républicain en matière de politique étrangère.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guiriec et Gaby Dorsil. Place au dossier du jour, première escale, le Gabon.
Deux candidats d'opposition, Jean Ping et Guy Dzumba Ndama, ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester la candidature du président Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du mois prochain. Ils l'accusent d'avoir falsifié son état civil et contestent son éligibilité. Timothée Donongmaï a contacté à Libreville l'opposant Paul-Marie Gondjout.
C'est le problème de son état civil qui pose problème. Il avait déposé un acte de naissance en 2009 qui est querellé. Il y a eu toute une polémique autour avec des procès en France dans une affaire de succession avec l'une de ses soeurs, où il devait effectivement prouver montrer un acte de naissance. Il y a un acte de naissance que le service central de l'état civil de Nantes en France a sorti, mais que bizarrement, il n'a jamais utilisé pour son dossier de candidature ici à Libreville. Et pour son dossier de candidature, donc pour cette élection présidentielle, il a présenté un acte de naissance qui est encore différent de celui qu'il a présenté en 2009. Donc voilà où nous en sommes. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'acte de naissance en acte de naissance, les uns aussi faux que les autres. Et reste encore pendant la preuve de sa filiation avec M. Omar Bongo et Mme Joséphine Kaba. Donc voilà, en fait, le premier est très simple. En fait.
L'opposant gabonais Paul-Marie Gondjout, Timothée Dondongmaï, a également recueilli la réaction de Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir.
En s'adressant à la Cour constitutionnelle, il renonce à la rue, il renonce à la violence. C'est déjà responsable de leur part. Maintenant, quant à ce qui est du recours, je ne suis pas à Libreville. Je n'ai pas vu le contenu de leur recours. Je ne sais pas quels argumentaires ils défendent. En conséquence, il m'est difficile, présentement, des actions en toute connaissance de cause. Pas cela détienne, la Cour constitutionnelle ayant été saisie, nous sommes confiants qu'elle dira le droit, étant entendu que l'acte de naissance du président fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires, aussi bien au Gabon qu'en France, et donc ça ne devrait pas poser de problème partout.
Voilà, c'était Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, joint à Makoko.
Cette semaine, dans Washington Forum, la convention républicaine depuis Cleveland. Donald Trump officiellement désigné comme le candidat du parti républicain pour la présidentielle de novembre prochain. Qui est le milliardaire new-yorkais? Quel est son programme? Quel impact aurait son élection sur les affaires du monde?
Retrouvez Nicolas Pinault, Idrissa Sedoudia et leurs intervenants à Cleveland et Tatiana Mosso et un invité spécial en plateau depuis Washington.
Laissez-nous vos commentaires et vos questions sur notre page Facebook. Nous en débattrons ce jeudi, 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
En Turquie, après le coup d'État manqué, plus de 48 000 personnes, oui, 48 000, dont de nombreux fonctionnaires et enseignants, ont été suspendus. D'après le ministère de la Justice, plus de 9 000 militaires, policiers et magistrats font l'objet d'une procédure judiciaire. Pour un état des lieux, Idriss Fall a joint Ali Sirman, ancien directeur du journal Cumhuriyet à Istanbul.
Après le coup d'État manqué, il y a un grand mouvement de purge dans toutes les cadres de l'État. Les fonctionnaires militaires et civils, y compris des juges, le nombre monte jusqu'à 50 000. Même les doyens des universités ont été démissionnés. On a demandé leur démission. On renouvelle tous les cadres de l'État, y compris les juges, les tribunaux.
Et comment les gens vivent tout ça?
Et en dehors des purges, il y a des démonstrations chaque nuit dans les rues et il y a des excès de certains partisans d'AKP. Les gens sont très inquiets. Certains militaires ont été bafoués, malmenés, maltraités. Il y a une très grande inquiétude de la part de la population aussi.
Mais est-ce qu'on en sait davantage sur qui sont les organisateurs de ce putsch manqué?
D'après le gouvernement, le grand organisateur, c'est Fethullah Gülen. La Turquie a demandé l'extradition de Fethullah Gülen des États-Unis.
Mais les États-Unis demandent aussi des preuves, non?
Oui, les États-Unis demandent des preuves, mais leur demande officielle a été envoyé à Washington dès aujourd'hui.
Mais ce Fethullah Gülen, c'est qui? C'était pas un allié du président Erdogan?
Fethullah Gülen était un allié proche pendant des années. Erdogan, à un certain moment, avait dit « Nous avons donné tout ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ?» C'est-à-dire qu'il y avait eu des purges au sein de l'armée, des procès d'Ergenekon et de Balyoz qui ont donné l'arrestation de certains, l'emprisonnement de plusieurs officiers. Cet acte a été fait en collaboration avec Fethullah Gülen et Tayyip Erdogan. Donc Tayyip Erdogan avait soutenu tous les procès tentés contre les militaires et qui étaient provoqués par les partisans de Fethullah Gülen. Les procès ont été menés par les juges qui étaient partisans de Fethullah Gülen.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui les différencie? Quelles sont les divergences entre Erdogan et Gülen alors?
C'est une lutte de pouvoir. Il n'y a aucune divergence. Il y a une lutte de pouvoir. Tous les deux ont une vision du monde islamiste. C'est une lutte de pouvoir entre Erdogan et Fethullah Gülen.
Ali Sirmen, ancien directeur du journal Cumhuriyet à Istanbul.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La 21e conférence internationale sur le sida se produit à Durban, en Afrique du Sud. Quelques 18 000 scientifiques, praticiens, militants, juristes et bailleurs de fonds y sont réunis. Environ 2 millions et demi de nouvelles infections sont enregistrées chaque année dans le monde. Quelle est la situation sur la lutte contre cette épidémie en Côte d'Ivoire? John Lindon s'est entretenu avec Laurent Gbanta, président du Conseil des organisations de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire.
Il faut dire que l'état généralisé en Côte d'Ivoire, nous sommes à 3,7 avec une concentration dans certains groupes. Alors nous avons au niveau des femmes 4,6 et puis au niveau des hommes 2,7. Donc il y a une féminisation de la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire.
Quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le terrain?
Nos 200 organisations sont réparties sur toutes les envies du territoire. Nos organisations interviennent dans plusieurs domaines. Il y a au niveau de la prévention, c'est-à-dire la sensibilisation, dépistage et conférences et informations. Au niveau du traitement, parce qu'il y a certaines organisations qui ont des centres quand même du traitement qui essaient d'encourager les PVIH à prendre leurs médicaments, c'est ce que nous appelons les soins et soutien surtout au niveau des OEV, c'est-à-dire les orphelins rendus vulnérables par l'effet du VIH-Sida. Et puis aussi, nous avons le fait que ces organisations étant sur place mènent une activité continue, c'est-à-dire une activité régulière, parce qu'ils sont plus proches de la population et connaissent bien le vécu de ces populations-là. Et pour ça aussi, il y a des informations à la sensibilisation pour amener la population à aller se faire dépister, puisqu'il faut le dire que le dépistage est volontaire en Côte d'Ivoire. Le dépistage n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc étant donné qu'il n'y a pas cette obligation d'aller se faire dépister, il faut amener les gens à comprendre, à conscientiser que pour savoir et connaître son statut sérologique, il est mieux d'aller se faire dépister. Pourquoi vous allez être un séro ignorant?
La 21e conférence internationale sur le sida se tient en ce moment en Afrique du Sud, à Durban. Quelles sont vos attentes lorsqu'il y a une conférence comme celle-là?
Bon, mes attentes sont simples, étant donné que nous sommes la société civile. Aujourd'hui, si nous avons pu travailler efficacement et de manière efficiente, c'est grâce au fonds des partenaires au développement, à l'appui technique et à l'appui financier des partenaires au développement. Or, il s'avère que ces fonds, ces financements sont en train de s'amenuiser, d'être réduits. Nous, notre souhait, c'est de renverser la tendance afin que les financements, si elle ne peut pas s'augmenter, garde le même niveau de financement et que la société civile soit financée.
Quel est le message que vous pouvez passer à ceux qui vous écoutent en Côte d'Ivoire et au-delà quant à ce qui est de la prévention ou des précautions à prendre pour éviter d'être touché par cette maladie?
Le message, il est clair. Et je voulais dire à mes frères et soeurs ivoiriens que le sida n'est pas une vue de l'esprit. Le sida existe bel et bien.
Voilà, c'était Laurent Gbanta, président du Conseil des organisations de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec John Lindon.
En Côte d'Ivoire, le chantier de la baie de Cocody coûtera 282 milliards de francs CFA. Le financement sera fourni par un consortium de banques arabes, notamment la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds cohésien, le Fonds saoudien et le Fonds d'Abu Dhabi. En Sierra Leone, Orange a annoncé avoir bouclé avec son partenaire sénégalais Sonatel l'acquisition de 100% de l'opérateur mobile Airtel en Sierra Leone. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais une enveloppe de 600 à 800 millions d'euros avait été évoquée pour les deux filiales d'Airtel au Burkina Faso et en Sierra Leone. Airtel est le premier opérateur mobile en Sierra Leone avec plus de 1,3 million de clients. En Éthiopie, un protocole d'accord a été signé entre Ethiopian Airlines et le groupe Aérosud. Le protocole d'accord vise à établir une joint venture entre les deux structures pour fabriquer et fournir diverses pièces d'avion à Boeing, Airbus et à d'autres entreprises aéronautiques.
L'actualité sportive, signée ce soir à Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
En football, Manchester United prêt à payer cher pour Pogba?
Oui, il faut le faire. Hein. Manchester United serait prêt à dépenser près de 120 millions d'euros pour acquérir le Français Paul Pogba, ce qui ferait de l'actuel milieu de terrain de la Juve de Turin le joueur le plus cher de l'histoire tout court. Manchester United devrait en effet déposer une offre de près de 119 millions d'euros, soit 100 millions de livres, après celle de 101 millions d'euros déjà rejetée par le club italien, selon des informations de la presse britannique.
17e étape du Tour de France.
Eh bien, le Russe Ilnur Zakarin de l'équipe Katusha a remporté cette 17e étape du Tour mardi entre Berne et Finot-Emosson, c'est en Suisse. Sa première victoire sur la grande boucle, le spécialiste du contre-la-montre de 26 ans, vainqueur du Tour de Romandie 2015, a pris le meilleur sur ses compagnons d'échappée, notamment le Colombien Jarlinson Pantano de IAM et le Polonais Rafael Majka de l'équipe Tinkoff, arrivé avec 8 minutes de retard sur le vainqueur du jour. Le Britannique Chris Froome de Sky conserve son maillot jaune.
Avant même le début des Jeux Olympiques de 2016, première distinction pour Michael Phelps.
Oui, la star Michael Phelps a été élu capitaine de l'équipe des États-Unis de natation pour les Jeux Olympiques 2016 de Rio. C'est ce qu'annonce la Fédération américaine d'athlétisme, ce mercredi. Phelps, âgé de 31 ans, a été élu par ses coéquipiers de l'équipe américaine. Une première de 5 participations aux JO pour le sportif le plus titré de l'histoire olympique. Le nageur aux 8 médailles d'or est l'un des 6 capitaines.
Merci, Bagassi Koura.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h dans Universel. Au menu, International Music, Comedy, Country Music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Jackson 8. Présentation, Morgane Guériec et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Disons, Morgane, un grand merci à nos fans sur Facebook. Ils sont plus de 2 250 000. Et on maintient la conversation, bien sûr. Dites-nous, chers auditeurs, ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.